France Musique.
Merci Lionel Esparza.
Merci Lionel, on vous retrouve demain en direct de l'hôtel Bedford à Paris.
Tapage nocturne jusqu'à minuit, c'est reparti.
Bruno Le Thor et François Bonnet, Tapage Nocturne.
France Musique.
Nous recevrons dans ce tapage nocturne le duo Invaders, formé de David Overt et Nicolas Couret, respectivement au clavier et à la batterie. Ce duo a revisité Carnival of Souls, film culte méconnu de Herc Harvey. Mais ouvrons cette émission avec notre page phonographique. Alors François, avec quoi venez-vous ce soir?
Alors je vous propose d'écouter, Bruno, une madeleine toute chaude ou une nouveauté toute froide, comme on voudra, puisqu'il s'agit d'un disque sorti en 2015. Il s'agit de l'album Lina in Nidia d'Astor. Derrière Astor se cache Mark Harwood, qui dirige l'excellent label Penultimate Press. Lina in Nidia est son troisième opus sous le nom d'Astor. Plonger dans ce disque, c'est comme se retourner et essayer de se rendormir après un mauvais rêve, c'est replonger dans le monde flou des consciences suspendues, des sensations non clarifiées. Ni musique ambiante, ni field recording, ni musique électronique, Lina in Nidia embrasse pour autant toutes ses influences pour tisser une trame dense et hétérogène et dont le déroulement, à la fois calme et imprévisible, figure une matrice efficace à la libération des affects. Nous écoutons le premier titre, Ist, sorte d'introduction encore un peu mélodieuse à ce disque tout en atmosphère. Astor, Lina in Nidia. écouter un extrait du disque d'Astor, Lina in Nidia, paru chez Penultimate Press.
C'est par les ateliers musicaux de France Musique dans les années 70 que Philippe Leroux découvre les instruments de percussion. C'est également à cette même période qu'il entend pour la première fois Ionisation de Varèse, qui ouvrait ainsi au jeune compositeur un champ des possibles sonores. L'opus discographique qui vient de paraître sur le label Soupir présente trois œuvres pour percussion que Philippe Leroux composa entre 2001 et 2012 pour des nomenclatures et des familles d'instruments divers. Dans De la vitesse, une œuvre composée en 2001, le compositeur explore une matière constituée d'une multitude de particules de son, de grains et de microcellules qui se propagent, mues par une énergie et une vitesse d'expansion. Le compositeur voit en cela une sorte de Big Bang. Extrait de la vitesse de Philippe Leroux, interprété par l'ensemble Sixth Room sous la direction de Fabrice Marandola. Extrait de De la vitesse de Philippe Leroux, interprété par l'ensemble Sixtrum, un disque qui vient de paraître sur l'excellent label de Joël Perrault, Soupir.
Bruno Le Thor et François Bonnet, Tapage Nocturne.
France Musique.
Pour ce tapage nocturne, nous recevons le duo Invaders, duo formé de David Overt et Nicolas Couret. Respectivement clavier et batteur, ils ont revisité l'univers sonore du film de Hec Harvey, Carnival of Souls. Si le film, à sa sortie en 1962, fut un échec retentissant, il n'en est pas moins devenu un film culte au fil des ans. Des cinéastes comme David Lynch ou John Carpenter en ont fait une référence dans leur cinéma. Le duo Invaders décida de s'emparer de cette œuvre et de fabriquer un univers sonore singulier qui offre un éclairage nouveau sur ce film. Invaders, c'est dans Tapage Nocturne.
Nicolas Courret, David Evert, bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
Comment avez-vous jeté votre dévolu sur ce film Carnival of Souls ?
En lisant Mad Movies, une revue que j'affectionne particulièrement. Quelques pages consacrées à ce film-là, présentation, le film qui a influencé David Lynch, tout ça, film méconnu. Bon. J'ai acheté le DVD, puis voilà, j'ai complètement craqué sur ce film. Et assez rapidement, j'ai commencé à avoir une petite envie de ciné-concert. Ça faisait quelques temps que je me disais, tiens, j'adore le cinéma, je suis musicien, j'aimerais bien faire un ciné-concert. Et quand j'ai vu ce film-là, je me suis dit, bah voilà, ça y est, c'est celui-là, quoi.
Et vous, David ?
Bah en fait, c'est Nico qui me voit. Et puis, il se trouve que ce DVD, on me l'avait prêté, il traînait dans un carton. Et quand j'ai regardé le film, j'ai adoré. Voilà, en plus il se trouve que c'est une histoire d'organiste, donc voilà, pour quelqu'un qui joue du clavier c'est pas mal. Nico m'a très vite fait écouter des maquettes qu'il avait déjà écrites pour le film, et j'étais emballé. Du coup, voilà, il avait écrit une bonne partie déjà de la musique, on s'est mis à travailler, voilà. En fait, on a travaillé pas mal chez moi, à adapter en live ce qu'il avait écrit sur ordi.
Justement, il existait une musique initialement, une musique de Gene Moore. Qu'est-ce que vous en avez fait ?
Rien. À savoir que...
Mais ça vous a inspiré ? Ça vous a nourri ?
Bah non, pas du tout, en fait. Il faut bien comprendre que la musique de ce film, enfin la musique originale signée Gene Moore, c'est de l'orgue, en permanence de l'orgue. J'ai même... je m'en doutais un petit peu, mais... J'ai même appris récemment, en lisant l'autobiographie de Candace Hilligos, la comédienne principale, qui consacre un chapitre sur le film dans son autobiographie, et elle dit ce dont je me doutais un petit peu, c'est que le réalisateur qui a fait ce film avec très très peu d'argent a quasiment tout dépensé sur la scène d'ouverture du film dans laquelle une voiture tombe d'un pont dans l'eau, et après il avait plus d'argent, et il a demandé à un organiste local de lui faire de la musique. Cet organiste a joué des trucs très très beaux, sans visionner, je pense, le film. Et cette musique a été collée sur ce film-là. Ce qui donne une ambiance très très particulière, ce qui contribue vraiment au charme du film. C'est une espèce de cauchemar mou, en permanent.
Cotonneux,
ouais. Du coup, on a eu envie justement de sortir complètement de ça et de rendre le film beaucoup plus dans le réel, quoi, avec beaucoup plus dynamique.
Racontez-nous un peu le pitch, comme on dit, le pitch du film.
Bon, bah, c'est assez simple. Il y a donc une course-poursuite avec des demoiselles et des jeunes gens sur un pont, un accident de voiture. Aucun est rescapé, sauf l'actrice principale qui sort miraculeusement de l'eau. Voilà. Et de là, elle est organiste de métier. Elle décide de s'en aller de son... Alors, c'est une petite ville, j'imagine.
Elle va à Salt Lake City.
Voilà. Mais là où elle habite, on ne sait pas trop quelle ville c'est. Obscure. Hein. Elle va à Salt Lake City, je veux dire. Là. Et effectivement, au fur et à mesure du film, elle a de plus en plus de visions, de revenants, voilà, voilà, dont un personnage central, une espèce de zombie. Et puis ça va pas de mieux en mieux au fur et à mesure du film.
Voilà.
Bruno Le Thor et François Bonnet, Tapage Nocturne. France Musique.
Alors un disque va donc paraître. Comment avez-vous appréhendé ce travail qui était une musique pour l'image? Le réapproprier, le réintégrer dans le monde du disque. Vous avez dû faire beaucoup de changements.
Oui, alors, pas tant que ça finalement, je pense. Mais oui, on a forcément raccourci certains passages qui, justement, sans images, devenaient trop longs, on racontait plus grand-chose. On a enlevé quelques morceaux qui aussi, enfin... un ou deux, ouais, je sais plus, qui finalement n'avaient pas leur place sur un disque.
Vous n'aimez pas le saxophone, en fait.
Non, mais ce morceau, on en fera quelque chose. Hein. C'est clair. Parce qu'on adore le saxophone, en particulier quand il est joué par Daniel Pabeuf. Mais il avait plus trop sa place dans le disque, ce morceau. Voilà, c'était, mais ça servira. Ça sera un inédit quelque part. Et oui, donc. La musique a été écrite. Moi, je suis un fan de John Carpenter. Je pense que ça s'entend un petit peu. Et j'adore regarder les films de John Carpenter. J'adore écouter les disques des musiques de films de John Carpenter. Donc la musique a déjà été en partie écrite en pensant à ça. Bien qu'au début, il n'était absolument pas question de faire un disque. Moi, je me disais, oh là là, on va pas s'embarquer dans cette galère. Et puis finalement, de fil en aiguille, nous voilà avec un album. On en est très très contents. Tout ça pour dire que musicalement, ça n'a pas été si compliqué que ça. Voilà, pour revenir sur la question de tout à l'heure.
Il a fallu reprendre des morceaux qui étaient déclinés de différentes façons dans le film, des thèmes récurrents, comme ça se fait en musique de film, pour en trouver aussi une version condensée, on va dire. Et puis le troisième homme de ce disque, c'est Thomas Poli, brillant Thomas Poli, qui a joué des claviers sur tous les titres. Au-delà de réaliser le disque. Le disque s'est fait assez vite, en une semaine, dans un studio pas loin de Nantes. Et on a vécu une chouette semaine où il a, notamment, pour rejoindre les histoires de son à la Carpenter, utilisé un synthé, il est analogique, mais il est surtout modulaire, ouais, où il a donné vraiment une patte et un lion et un lien à toutes ces musiques qui venaient de l'écriture, parce que Nico a quand même une écriture bien à lui. Il y a eu quelques morceaux qui ont été faits dans ma cave.
Parce qu'il manquait, ça fait peur, ça. Voilà.
Et à deux, avec Nico. Et puis pour donner un lien à tout ça, Thomas, il a son oreille de producteur, enfin réalisateur, et aussi de musicien qui a rejoué des guitares et surtout ce synthé qu'on entend sur tous les titres, en fait.
Good luck, Mary. Stop by and see us the next time you're in.
Thank you. But I'm never coming back.
Thank you.
Invaders est né avec ce projet ?
Oui, complètement.
Est-ce que ça veut dire que désormais, vous ferez du ciné-concert ? C'est un duo qui est tourné résolument vers le ciné-concert ?
Je n'en ai pas la moindre idée.
Bah, en tout cas, avec celui-là, on aimerait bien le refaire le plus possible.
Bah voilà, celui-là, on aimerait bien quand même le jouer longtemps et souvent. Et après, je sais pas, moi, on a vaguement parlé, mais j'ai une petite idée derrière la tête de BD-concert. Avec des bandes dessinées de Jim Woodring qui dessine Frank, une espèce de chat un peu
psychédélique,
ouais, complètement psychédélique. Donc voilà, je commence un petit peu à réfléchir à ça de loin, de très loin. Mais ouais, c'est vrai que musique plus image, c'est quelque chose que j'ai envie d'explorer de plus en plus, quoi.
Quelle est la difficulté du duo ? Parce qu'à la fois, c'est une formation vraiment minimale, mais à la fois, il faut se partager la place, partager l'espace, l'espace sonore, le volume.
Bah, je dirais, moi, les avantages du duo, c'est qu'on a vraiment chacun énormément de place. Et les inconvénients du duo, c'est qu'on a chacun énormément de place. à savoir que cette place, il faut l'occuper, quoi. Il faut, alors, bon, on triche un petit peu, quand même, faut le dire, parce que sur scène, on n'est pas que tous les deux. On est tous les deux, plus sur certains morceaux, il y a quand même des boucles qui tournent.
Oui, on a un ordinateur qui fait pas tout, mais qui fait certaines choses. Et c'est vrai que le fait d'être en duo, peut-être à trois, on pourrait remplacer l'ordinateur. À deux, c'est vraiment difficile quand... les deux mains, les pieds sont pris par tout le monde. Ce serait pas impossible, mais ça demanderait peut-être beaucoup de travail.
Et puis c'est vrai qu'il y a quand même un petit souci, on va dire orchestral entre guillemets, dans cette histoire. On entend quasiment que des synthés, il y a plusieurs voix, etc. Donc c'est toujours ralent de devoir se séparer d'une voix dans un équilibre polyphonique. Nous, on s'est dit, tant pis, hein, cette voix-là, elle sera jouée par un ordinateur.
Et puis, tout simplement, je dirais, dans l'écriture de Nico, que j'ai découvert, il y a des choses qui sont quand même assez pointues dans l'écriture. Donc, se séparer d'une séquence ou d'une ligne de synthé parce que simplement on est deux et qu'on peut pas le faire, ça a plus de sens dans l'écriture musicale tout simplement.
Bruno Le Thor et François Bonnet, Tapage Nocturne. France Musique.
Thank you.
À quoi fait référence Invaders ?
À la série B, de manière générale. Bon, Space Invaders, David Vincent, et tout un tas de films de plutôt des années 60, 70, de fantastique, science-fiction, que j'affectionne particulièrement. Et c'est mes découvertes cinématographiques, ça a été ça, dans le vidéoclub de mon village, où j'allais jouer un peu tous ces films-là, avec des VHS qui commençaient à devenir complètement usés. Ouais, ça vient de là, ouais.
Merci beaucoup en tout cas d'être venu nous voir dans ce tapage nocturne.
Merci beaucoup à vous. Je me permets juste de rajouter que le 10 et 11 février, nous jouons au Festival Travelling. Festival Travelling à Rennes, voilà, qui ont été les premiers vraiment à nous soutenir dans cette histoire, à devenir coproducteurs. Il y a de ça un an et demi à peu près, ils ont commencé à...
Un
petit peu moins. Et donc voilà, on est très contents parce que le disque sort et on va faire notre ciné-concert dans le Festival Travelling. C'est pour nous une sorte de petit retour... au Bercail, quoi, voilà, ça a été les premiers à nous aider. Donc le 10 février, on fait un petit showcase sans le film. Et le 11 février, c'est le ciné-concert.
Vendredi et samedi prochain.
Voilà.
Merci beaucoup, à bientôt.
Merci.
Merci encore.
I didn't say that.
You haven't said anything all evening. Why don't I go play that song again? You like it so much.
Johnny, who's it all? Buddy, you know what you...
Come on now, you've been holding out on me. That's not the kind of pig you usually drag around.
Now you quit licking your chops. She's out of your flat.
You want a bet?
Lay off, man. Someone
stole that
mask. Good luck.
We'll be right back.
Ainsi s'achève ce tapage nocturne. À la technique était ce soir Cédric Châtelut et Stéphane Touvenin. Attaché d'émission Soisic Noël, chargé de réalisation Bruno Rioux-Maillard. Il est l'heure maintenant de retrouver les Alas Brévés d'Anne Montaron.
Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.